Le livre, oui, défend la gestion de l'offre, système qui régule la production laitière au Québec et au Canada, mais qui a perdu des plumes depuis quelques années. Une part de plus en plus grande des produits laitiers faits chez nous échappe à ce système qui a le grand avantage de garantir la stabilité aux agriculteurs comme aux consommateurs. La gestion de l'offre, cependant, a vieilli, et les auteurs du livre, Simon Bégin, Yannick Patelli et Yann Turmine, avancent que sa modernisation, son actualisation, pourrait en bonne partie passer par une gestion plus indépendante du syndicat qu'est l'UPA et son groupe spécialisé des producteurs de lait. Donc, dans le livre, beaucoup de questions pour alimenter débats et réflexions. Jean Pronovost, président de l'Institut Jean Garon, voit dans cet ouvrage un bel outil pour animer la discussion sur l'avenir du secteur laitier et des fermes dites traditionnelles.
S'il est une question qui n'a jamais cessé de faire débat au sein du monde agricole, c'est bien la gestion de l'offre. La signature de l'accord économique et commercial global avec l'Union européenne relancera très certainement des débats qui ne sont pas nécessairement bien engagés, suffisamment documentés, ni assez présents dans l'espace public, en dehors, bien sûr, des milieux qui sont très directement concernés. Comment faire en sorte que la gestion de l'offre créée par des lois publiques pour servir l'intérêt public redevienne justement un instrument de bien commun? L'État peut-il et doit-il récupérer les responsabilités qu'il a déléguées en cette matière? Ce ne sont que quelques-unes des questions qu'on peut soulever. La gestion de l'offre est menacée, tous le soulignent, mais faut-il laisser mourir un système qui permet encore, malgré ses défauts, à des milliers de petites et moyennes entreprises de résister aux forces immenses qui, partout sur la planète, poussent à la concentration des moyens de production et de la richesse? Existe-t-il d'autres solutions aux problèmes qui lui ont donné naissance? La question, évidemment, interpelle tous les Québécois. C'est d'ailleurs pourquoi l'Institut a choisi, pour souligner son lancement, d'appuyer et de préfacer le livre « Une crise agricole au Québec vers la fin des fermes laitières traditionnelles au Québec ». L'Institut n'endosse pas nécessairement les propos qui y sont tenus et ses membres sont tout à fait libres d'en dire ce qu'ils en pensent. Ce livre, qui est aussi lancé aujourd'hui, est le résultat d'une démarche privée des éditions VLB et de la Vie agricole. Les réflexions qu'il met de l'avant ne peuvent que bien servir et alimenter les discussions que nous souhaitons encourager sur ce thème. Il traite des impacts économiques et sociaux d'un affaiblissement de la gestion de l'offre et dresse l'inventaire des causes qui ont mené à ces défaillances. Il nous a paru intéressant et approprié de souligner ici et aujourd'hui cette publication qui illustre fort bien les discussions collectives qui ne sont pas encore achevées.
Je me suis par ailleurs entretenu avec l'un des auteurs, Yann Patelli, éditeur de La Vie agricole, à propos de cet ouvrage « Une crise agricole au Québec vers la fin des fermes laitières traditionnelles ». Ni lui, ni son journal, La Vie agricole, dit-il, ne souhaitent la disparition de la gestion de l'offre. Yannick Patelli, bonjour.
Bonjour.
L'objectif du livre, la motivation que vous avez eue pour rédiger, préparer, publier ce livre?
La motivation, elle vient en fait de faire la démonstration qu'il y a une crise agricole au Québec dans certains secteurs. Le secteur du lait, ce n'est pas le cas dans tout le monde agricole. On est bien conscient de cela. Mais nous, on voulait mettre de l'avant, comme on l'a déjà publié dans notre journal La Vie agricole. Il y a une problématique dans le secteur du lait bien au-delà des traités internationaux, notamment par rapport au lait diafiltré, qui est quelque chose qui est sorti il y a à peu près un an et demi, un petit peu avant la campagne fédérale, mais jamais véritablement dans les années précédentes, alors que le lait diafiltré, quand on fouille, on sait que ça fait au moins une dizaine ou une douzaine d'années que ça existe. Donc on se rend compte que des autorités, qu'elles soient politiques ou syndicales, n'ont jamais parlé d'une problématique qui existait. Quand on a commencé à comprendre ça à travers notre journal et qu'on était en train de travailler déjà sur un projet de livre avec VLB sur l'industrie laitière, on s'est dit c'est l'angle qu'il faut prendre. Il faut expliquer que si on n'arrête pas les processus qui sont actuellement en place, on va se retrouver dans des crises qui vont faire sauter la gestion de l'œuf avant même n'importe quel traité international. Et on ne veut pas que les producteurs laitiers du Québec se retrouvent dans la situation des Français, des Européens qui ont perdu leur quota en avril 2015 et qui sont dans une situation bien plus catastrophique que celle des Québécois.
Et justement, la crise, elle est réelle et la menace, elle est réelle sur le secteur laitier. La pression devient forte pour les politiciens du fait que on dit, et ça semble être une fatalité, que le Québec, le Canada est le seul endroit où on maintient un système comme celui-là.
Oui, mais en fait, on a deux choix, en fait. C'est où, effectivement, on dit on est le dernier pays qui avons ça, donc on sort de là et on fait le libre-échange à tout va. Nous, on ne pense pas ça. On pense qu'il faut garder le principe de la gestion de l'offre. Mais attention, le livre, il va aussi beaucoup plus loin. Il parle de la gestion de l'offre. Et là, ça devient peut-être un peu complexe, mais nous, on part du principe que la gestion de l'offre n'a pas à être gérée par juste certains acteurs qui sont, pour ne pas les nommer, l'UPA, le syndicat. Il faut que plusieurs acteurs de la société du Québec s'intéressent, notamment les consommateurs. La gestion de l'offre doit se faire par plusieurs personnes au Québec, plusieurs organisations. Et c'est un peu dans l'esprit de l'Institut Jean Garon qu'on met en place en même temps. C'est-à-dire que nous, quand on regarde Jean Garon, l'Institut qu'on a mis en place, c'est pas juste des gens du monde agricole, c'est volontairement des gens de la société du Québec, que ce soit Jean-Pierre Léger, Claude Bellan, Mathieu Boccoté, qui n'ont pas à voir directement avec l'agriculture, mais qui ont beaucoup apporté sur l'expertise et faire la démonstration qu'aujourd'hui, si on veut que l'agriculture avance, ça ne peut pas se passer en vase clos comme ça se passe depuis quelques années.
Il y a une constante dans le livre. Oui, on défend la gestion de l'offre. Et vous allez me dire pourquoi? Bien, des gens pensent que du fait que la vie agricole est associée à la publication de ce livre avec VLB éditeur, bien sûr, des gens pensent qu'automatiquement, c'est un système que vous souhaitez voir être démantelé.
Bien, les gens pensent ça parce que les gens ne comprennent pas qu'on a une plateforme, une publication qui donne la liberté d'opinion à tout le monde. Donc effectivement, dans la vie agricole, on voit des opinions très divergentes. Il n'est pas rare de voir des écrits de Sylvain Charlebois, qui n'est pas, à mon sens, complètement contre la gestion de l'œuf, mais qui a une position peut-être plus radicale que nous. Des messages, en fait, de Maxime Bernier, qui est complètement contre la gestion de l'œuf. Mais si Saputo ou Maxime Bernier pense qu'il faut arrêter la gestion de l'œuf, ça me semble normal qu'une publication indépendante le dise. Tout comme quand Yann Turmine défend la gestion de l'œuf, il faut le dire. Nous, on s'est positionné en tant que co-auteur. Moi, je me positionne comme éditeur du journal, mais ça n'arrêtera pas le fait qu'en tant qu'éditeur d'un journal, je vais toujours donner la place aux opinions divergentes. C'est la même problématique que le pluralisme syndical. Pourquoi le journal La Vie Agricole a une perception d'un journal qui n'est pas très en phase avec l'UPA? Parce que quand on a initié ce journal-là, on a donné la parole à des gens comme Benoît Giroir, l'Union Paysanne, à des gens comme Jacques Cartier du Conseil des entrepreneurs agricoles, qui sont tous des gens qui représentent des producteurs aujourd'hui dans le champ, qui ont besoin d'être entendus et qui n'avaient plus de tribune pour se faire entendre. Et c'est là où on dit, je rejoins ce qui s'est dit ce matin par certains parrains, il est temps que les politiques se prennent en main et disent, bon, le débat, il faut qu'il se fasse, la liberté de tous et chacun doit être entendue, arrêtons de vivre en vase clos, mais c'est Thomas Pack de dire, arrêtons de vivre en vase clos. Il va falloir à un moment donné que, sur le plan législatif, il y a quelqu'un qui bouge en disant, on change la donne. Et ça rejoint l'esprit de Jean Garon. On se rappellera que Jean Garon a laissé des traces mémorables au niveau de l'agriculture au Québec, on en est tous conscients. Mais Jean Garon, si on relit les 4 années de chronique qu'il a fait chez nous, si on relit ses mémoires dans Pour tout vous dire, il est très clair. Il a une lucidité vis-à-vis de l'évolution du Québec et du Québec moderne. Et c'est vraiment pas trahir Jean Garon que de dire les choses doivent bouger.
Yannick Patelli, merci beaucoup.
Merci.
Ici Lionel Levac. Dans les 2 prochains blogs, je vais poursuivre sur le sujet. D'abord, je parlerai de ce nouvel institut Jean Garon, lancé officiellement cette semaine, et je reviendrai par la suite sur le livre « Une crise agricole au Québec vers la fin des fermes laitières traditionnelles », en vous présentant l'enregistrement d'un débat qu'on m'avait demandé d'animer à l'occasion du lancement. Au revoir.